Extrait des chroniques du hors-temps. La réflexion culturelle. Après la mise en place du système de dissuasion, une Académie mondiale des sciences, une institution internationale semblable aux Nations unies, fut créée pour recueillir et traiter les informations scientifiques et technologiques transmises à la Terre par les trisolariens. Les humains s'étaient tout d'abord imaginé qu'ils ne recevraient que peu d'informations de la part des trisolariens et qu'il faudrait les presser comme un tube de dentifrice pour en obtenir davantage. On craignait aussi que les informations transmises regorgent d'erreurs et de fausses routes destinées à duper les humains, si bien que les scientifiques terriens s'attendaient à devoir compter sur leur intuition pour valider ces théories. Mais la manière dont les trisolariens se comportèrent dépassa toute attente. En un temps très court, ils fournirent avec force détail une gigantesque somme de connaissances, concernant aussi bien les mathématiques, la physique, l'astronomie ou la biologie moléculaire. Cette dernière discipline prenant toutefois pour standard la vie trisolarienne. Chaque champ de connaissances était présenté sous la forme d'un système scientifique complet. La masse des informations était par moments telle que le monde scientifique terrien ne savait plus où donner de la tête. Trisolaris n'avait de cesse de guider les humains dans ce lent processus d'absorption cognitive. Pendant un temps, la Terre devint une université géante. Avec la levée du blocus des intellectrons sur les accélérateurs de particules, les théories physiques trisolariennes purent être prouvées expérimentalement, ce qui conforta la foi des humains dans la véracité des informations qui leur étaient transmises. Il arrivait même que les trisolariens se plaignent de la lenteur avec laquelle l'Académie mondiale des sciences digérait ses connaissances. Ils paraissaient impatients de voir les humains rattraper leur propre niveau scientifique, du moins en ce qui concernait le domaine des sciences fondamentales. Sur ce dernier point qui ne manquait pas de les dérouter, les humains tentèrent de fournir plusieurs explications, dont l'une des plus crédibles était la suivante. Trisolaris, consciente de la supériorité terrienne en matière de vitesse de développement, comptait sur le progrès humain pour acquérir à travers lui de nouvelles connaissances. Selon cette hypothèse, la Terre était utilisée comme une batterie de connaissances qui, une fois chargée, pouvait libérer une plus grande énergie. Trisolaris se justifiait différemment. Sa transmission enthousiaste de connaissances était sa manière de témoigner son respect à la civilisation terrienne. Les trisolariens prétendaient en effet que leur monde obtenait davantage de la Terre que ce qu'il lui donnait. La culture humaine avait ouvert leurs yeux. Grâce à elle, ils pouvaient sonder plus en profondeur le sens de la civilisation et de l'existence, et réapprenaient à apprécier la beauté de la nature et de la vie. La culture humaine se diffusait rapidement et à grande échelle au sein du monde trisolarien. Elle ébranlait les fondements de sa société. Durant le demi-siècle dernier, des révolutionnaires trisolariens s'étaient même revendiqués d'elle et avaient réussi à rapprocher les structures sociales et les systèmes politiques de leur monde de ceux de la Terre. Les valeurs humaines étaient estimées et respectées dans cette société lointaine et la culture humaine faisait l'objet d'une adoration de la part de la population. Les hommes furent au début sceptiques devant ces explications. Mais cette incroyable vague de réflexion culturelle prouvait bien cette tendance. 10 ans après le commencement de l'ère de la dissuasion, Trisolaris ne se limita plus à la transmission d'informations scientifiques, mais commença à disséminer sur Terre un nombre croissant d'œuvres artistiques s'inspirant des œuvres humaines, parmi lesquelles films, romans, poèmes, musique ou peinture. Le plus époustouflant, c'était que ces imitations n'impliquaient jamais une perte totale de singularité. Dès le début, les œuvres trisolariennes apparurent originales et sophistiquées. C'était ce phénomène que les experts désignaient sous le nom de « réflexion culturelle ». La civilisation humaine avait désormais un miroir dans l'univers qui l'invitait à porter sur elle-même un nouveau regard. Les 10 années qui suivirent, la réflexion culturelle devint populaire sur Terre. Elle était vue comme une alternative capable de revivifier une culture locale jugée sans cesse plus croulante et décadente. Cette nouvelle mode s'étendait même aux domaines académiques où de nombreux chercheurs tentaient d'explorer à la lumière de cette nouvelle source l'essence de la culture et de la beauté. Il était aujourd'hui devenu difficile de déterminer l'origine d'un film ou d'un roman sans connaître l'identité, humaine ou trisolarienne, de son auteur. Car dans les œuvres trisolariennes aussi, les personnages étaient humains et les histoires avaient la Terre pour cadre sans jamais que ne se dessine l'ombre d'un monde alien. C'était la démonstration la plus puissante du succès de la culture humaine sur Trisolaris. Mais dans le même temps, Trisolaris demeurait comme enveloppé dans un voile de mystère. Presque aucun détail la concernant ne filtrait jusqu'à la Terre. Les Trisolariens se justifiaient en disant que leur culture locale était trop triviale pour mériter d'être montrée aux humains et que le fossé qui séparait la biologie et l'environnement naturel des deux mondes était trop grand. Trop en dévoiler, c'était prendre le risque de dresser des barrières insoupçonnées aux échanges précieux déjà entrepris. L'humanité se réjouissait de constater que tout évoluait dans une direction positive. Un rayon de soleil éclairait bel et bien ce coin de la forêt sombre. Le jour où Cheng Xin sortit de l'hôpital, A.A. lui indiqua qu'Intellectra voulait la rencontrer. Cheng Xin savait qu'Intellectra était le nom d'une androïde, création issue des techniques humaines de pointe en matière d'intelligence artificielle et de technologie bionique. Mais celle-ci était contrôlée par ces particules subatomiques intelligentes appelées intellectrons. Ce robot humanoïde d'apparence féminine était en quelque sorte l'ambassadrice trisolarienne sur Terre et permettait des échanges plus naturels et plus fluides entre les deux mondes que ce qu'offraient jadis les intellectrons déployés en basse dimension. Intellectra vivait sur un arbre gigantesque à la périphérie de la ville. Depuis le véhicule volant qui transportait Cheng Xin et A.A., on pouvait remarquer que les feuilles de l'arbre étaient clairsemées, comme en plein automne. La maison d'Intellectra était suspendue sur la branche la plus haute, qui ne comportait qu'une seule feuille. C'était une ravissante demeure en bambou qui apparaissait et disparaissait au gré des ondulations des nuages blancs dans lesquels elle était enveloppée. Le ciel était dégagé, et il était évident que cette brume blanche était générée par l'habitation elle-même. Cheng Xin et A.A. longèrent la branche jusqu'à son extrémité. Le chemin était tapissé de galets lisses et humides et bordé des deux côtés par une pelouse luxuriante. Elles descendirent un escalier en colimaçon qui les mena jusqu'à la demeure suspendue. Intellectra les attendait devant le perron. Drapée dans un kimono japonais, sa silhouette fine semblait recouverte de fleurs épanouies. Mais quand Cheng Xin vit son visage, les fleurs perdirent leur éclat. Elle avait du mal à imaginer une beauté plus parfaite. L'androïde avait quelque chose de quasi organique, comme si elle était animée d'une âme vivante. Elle esquissa un léger sourire, une volée de rosée printanière envoyée par la brise, dans laquelle ondoyaient des rayons de soleil enchanteurs. Intellectra s'inclina lentement dans un mouvement si gracieux que seul le caractère chinois de la douceur pouvait exprimer, tant par sa forme que par son sens. « Soyez les bienvenus. Je vous prie de m'excuser. Il aurait été plus courtois que je vous rende moi-même visite, mais je n'aurais pu dans ce cas exécuter pour vous la cérémonie du thé. Je suis absolument ravi de faire votre connaissance, » glissa Intellectra, avant de s'incliner une nouvelle fois. Sa voix était aussi douce et légère que son apparence. Elle était à peine audible, mais dégageait un charme envoûtant comme si, au premier son sorti de sa bouche, tous les autres sons s'interrompaient pour écouter cette délicieuse mélodie. Les deux femmes suivirent Intellectra dans la cour. Tandis qu'elle avançait, les fleurs blanches accrochées au chignon de cette dernière frémissaient. Elle se retournait régulièrement pour adresser un sourire à ses hôtes. Cheng Xin avait déjà oublié que cette créature exquise était une envahisseuse extraterrestre contrôlée par un monde redoutable situé à 4 années-lumière de là. Elle ne voyait devant elle qu'une femme belle et gracieuse, dotée d'une féminité presque outrancière. Elle était comme un pigment si pur qu'il aurait suffi de le plonger dans un lac pour qu'aussitôt ce dernier se teinte de sa couleur. Des deux côtés du sentier de la cour se dressaient des bosquets de bambous d'un vert éclatant, au milieu desquels, à hauteur de taille, une brume blanche se condensait en fines volutes. Elles franchirent un petit pont de bois qui surplombait un ruisseau d'eau claire. Intellectra fit un pas de côté, s'inclina encore et invita les deux femmes à entrer dans le petit salon. Celui-ci, lumineux et spacieux, était entièrement de style oriental. Les quatre murs étaient composés de toiles translucides, ce qui donnait à la pièce l'aspect d'un grand kiosque. On pouvait apercevoir dehors le bleu du ciel et les arabesques blanches des nuages qui paraissaient naître de la demeure. Une petite estampe japonaise gravée sur bois était suspendue au mur à côté d'un paravent sur lequel figurait un paysage peint à l'encre de Chine. La décoration était à la fois épurée et raffinée et s'accordait en tout point avec l'ambiance du lieu. Intellectra invita Cheng Xin et A-A à s'asseoir en tailleur sur le confortable tatami, puis elle s'assit à son tour avec grâce. Avec méthode, elle sortit un à un les accessoires à thé et les plaça devant elle.
« Il va falloir être patiente. Nous allons devoir attendre 2 heures avant de boire la première gorgée de thé. »
chuchota A-A à l'oreille de Cheng Xin. Intellectra sortit un linge de soie blanc de son kimono et commença à essuyer des ustensiles en apparence pourtant impeccables. Dans un ordre précis, elle essuya une longue louche aux manches en bambou, puis des bols en porcelaine et en laiton. Elle puisa ensuite de l'eau claire dans un récipient en porcelaine qu'elle versa avec la louche dans une théière mise à chauffer au-dessus d'un magnifique brasero en bronze. Elle prit ensuite quelques mesures de matcha et les versa dans les bols avant de remuer lentement à l'aide d'un fouet en bambou. Ses gestes étaient lents, délicats, et elle les répéta plusieurs fois. L'essuyage des accessoires à lui seul prit pas moins de 20 minutes. De toute évidence, aux yeux d'Intellectra, la signification rituelle de ses mouvements comptait davantage que leur utilité. Cheng Xin ne ressentait néanmoins aucun ennui. Les gestes gracieux et aériens d'Intellectra avaient sur elle un effet obnubilant, hypnotisant. Des petites bouffées de brise fraîche entraient de temps en temps dans la pièce, et c'est elle qui paraissait animer les bras lisses comme le jade d'Intellectra. Ce qu'effleuraient ses mains fines ne semblait pas être des accessoires pour le thé, mais quelque chose de beaucoup plus doux, de la soie, de la brume ou bien du temps. Oui, elle caressait le temps, et dans ses mains celui-ci devenait souple, satiné. Il glissait avec la même lenteur que les volutes de nuages au milieu du bosquet de bambou. C'était un autre temps, et dans ce temps, l'histoire écrite par le feu et le sang s'était évanouie. Les considérations de la vie terrestre n'étaient plus que des chimères. Seuls demeuraient les nuages blancs, les bosquets de bambou et le parfum du thé. Harmonie, respect, pureté et sérénité, les 4 principes au centre d'une authentique cérémonie du thé japonaise. Au bout d'un certain temps, le thé fut prêt. Après un autre déploiement de rituels complexes, il arriva enfin dans les mains d'A-A et de Cheng Xin. Cette dernière porta la boisson émeraude à ses lèvres et une sensation fraîche et amère imprégna son corps et purifia son esprit. « Que le monde est beau quand nous sommes entre femmes, mais il reste fragile. Nous, les femmes, nous avons le devoir de l'aimer et de veiller sur lui. » souffla Intellectra à voix basse, puis elle s'inclina et sa voix reprit de la vigueur. « Je vous en prie, veillez sur lui, veillez sur lui. » Cheng Xin comprit parfaitement la signification profonde de cette phrase et de cette cérémonie du thé. La rencontre suivante ramena Cheng Xin à la pesanteur de la réalité. Le lendemain de son rendez-vous avec Intellectra, 6 individus de l'ère commune vinrent lui rendre visite. Il s'agissait des 6 candidats à la succession du porte-épée, tous des hommes, dont l'âge était compris entre 34 et 68 ans. Par comparaison avec le début de l'ère de la dissuasion, le nombre d'hibernautes de l'ère commune à être aujourd'hui réveillés était en forte baisse, mais ceux-ci formaient une communauté à part dans la société. Se fondre dans l'époque moderne était encore plus dur pour eux que pour ceux qui s'étaient réveillés au lendemain de la grande crise. Les membres masculins de cette communauté avaient pour la plupart peu à peu commencé, consciemment ou non, à féminiser leur apparence et leur personnalité pour s'adapter aux nouvelles normes de la société. Mais il n'en était rien des 6 individus qui se présentaient devant elles. Ils paraissaient au contraire résolus à conserver un physique et une allure correspondant aux standards de virilité de leur époque. Si Chung Sin les avait rencontrés quelques jours plus tôt, elle les aurait certainement trouvés réconfortants, mais à présent, elle éprouvait devant eux un sentiment d'oppression. Aucun rayon de soleil n'éclairait les yeux de ces êtres. Leurs visages étaient des masques impénétrables derrière lesquels ils dissimulaient leurs sentiments réels. Chung Sin eut la sensation de faire face à une muraille composée de 6 blocs de roche, dont les aspérités mettaient au jour la dureté et la callosité du passage du temps. Le souffle froid qui filtrait à travers ces remparts portait l'odeur du sang. Chung Sin commença par exprimer sa gratitude au candidat qui avait alerté la police. Elle était sincère. Peu importe comment et pourquoi il lui avait sauvé la vie. Cet homme au visage austère de 48 ans s'appelait Bi Yun Feng. Il avait jadis participé à la conception du plus grand accélérateur de particules au monde. Comme Chung Sin, il avait été envoyé dans le futur comme médiateur dans l'espoir qu'un jour, une fois que les intellectrons auraient levé leur blocus, on pourrait réactiver l'installation. Malheureusement, les collisionneurs bâtis en son temps n'avaient pas survécu au grand ravin. « J'espère ne pas avoir fait une erreur », répondit Bi Yun Feng. Peut-être avait-il voulu faire un trait d'humour, mais ni Chung Sin ni les autres n'esquissèrent un sourire. « Nous sommes venus vous convaincre de ne pas vous présenter comme candidate au poste de porte-épée », déclara sans détour Cao Bin, 34 ans, le plus jeune de tous les candidats. Cao Bin avait dans le temps été le collègue du célèbre physicien Ding Yi au début de la grande crise. Lorsque la vérité sur le verrouillage de la science par les intellectrons avait été dévoilée, il avait aussitôt perçu que la physique théorique deviendrait un simple jeu mathématique destiné à ne jamais être démontré expérimentalement. Il était donc entré en hibernation en attendant le jour où les intellectrons mettraient un terme à leur blocus. « Si je me déclare candidate, « croyez-vous vraiment que je puisse avoir la moindre chance ?» demanda Chung Sin. Depuis qu'elle était rentrée de chez Intellectra, cette question n'avait cessé de la hanter, à tel point qu'elle n'avait pas dormi de la nuit.
« Si vous concourez, il est presque certain que vous serez choisi, » répondit Ivan Antonov.
Ce beau russe était le candidat le plus jeune après Cao Bin. À seulement 43 ans, il avait un CV déjà bien rempli. Naguère le plus jeune vice-amiral de la marine russe, il avait été promu commandant en second de la flotte de la Baltique. Il avait ensuite été hiberné à cause d'une maladie incurable. « Mon degré de dissuasion est-il si élevé ?» demanda Chung Sin en souriant.
« En tout cas, votre profil est idéal. Tout d'abord, vous avez été membre de l'Agence de renseignement planétaire. » Au cours des 2 derniers siècles, l'agence a mené à bien de nombreuses missions d'espionnage du monde trisolarien. Juste avant l'ultime bataille, l'ARP a même envoyé un avertissement à la flotte solaire au sujet d'une possible attaque de la gouttelette, mais elle n'a pas été écoutée. Elle bénéficie d'une aura légendaire de nos jours, ce qui sera mis à votre crédit. Par ailleurs, vous êtes la seule personne à posséder un monde, et la seule à pouvoir sauver le nôtre. Ce raisonnement peut paraître illogique, mais c'est celui qui est le plus largement partagé aujourd'hui. Mais l'essentiel est ailleurs, écoutez plutôt mon explication, fit un homme chauve en interrompant Antonov.
A.J. Hopkins, ou du moins c'est ainsi qu'il se faisait appeler, car les documents concernant son identité avaient été perdus au moment de son réveil. Lui-même refusait de son côté de donner le moindre détail sur son identité véritable, pas même son année de naissance. Il était ardu pour lui de se fondre dans la société, mais son passé mystérieux jouait pour lui. Avec Antonov, il était le candidat dont on jugeait qu'il avait le plus haut degré de dissuasion.
Aux yeux du grand public, voici le portrait robot du porte-épée idéal. Il est capable de faire peur à Trisolaris et en même temps de rassurer la population terrienne. Sauf qu'il n'existe évidemment aucun candidat dans ce genre, et à choisir, ils opteront pour le candidat qui leur fait le moins peur. Si vous êtes retenu, c'est avant tout parce que vous êtes une femme, et qui plus est, une femme parfaite à leurs yeux. Ces foutues poules mouillées sont encore plus candides que des gosses de notre époque. Ils ne voient que la partie visible des choses. Ils sont tous persuadés que tout va dans la bonne direction, que nous sommes à l'aube d'une grande harmonie cosmique. Alors d'après eux, la dissuasion devient moins importante et la main qui tient l'épée peut être plus souple.
N'ont-ils pas raison ? Demanda Chung Sin, agacé par le ton méprisant de Hopkins. Aucun des six hommes ne lui répondit. Ils se contentèrent d'échanger des regards silencieux. Leurs yeux se firent plus sombres. Au milieu d'eux, Chung Sin avait l'impression d'être emprisonnée dans un puits glacial. Elle frissonna.
Mon enfant, vous n'êtes pas faite pour être porte-épée, ajouta le plus âgé des candidats.
À 68 ans, il avait jadis été vice-ministre des Affaires étrangères de la Corée du Sud.
Vous n'avez aucune expérience politique et, du fait de votre jeunesse, votre vécu est limité. Vous ne possédez pas les compétences pour émettre un jugement juste et encore moins les facultés psychologiques qu'exige la fonction de porte-épée. Vous n'avez pour vous que votre bienveillance et un certain sens de la responsabilité.
En réalité, je crois que si vous prenez le temps de réfléchir, vous saurez que vous n'avez pas non plus envie de mener une vie de porte-épée. Vous n'avez aucune idée des sacrifices auxquels il faudra se plier,
renchérit un candidat jusque-là resté muet, un ancien avocat de grande réputation. Cette dernière phrase plongea Chun Sin dans le silence. Elle commençait tout juste à comprendre ce que Luo Ji, l'actuel porte-épée, avait pu endurer pendant l'ère de la dissuasion.
Après le départ des six candidats, A.A. confia à Chung Sin. « Pour moi, la vie d'un porte-épée n'est pas une vie. C'est même pire que l'enfer. Pourquoi ces hommes de ton époque veulent-ils tant être choisis pour cette mission ?»«
Tenir le destin de deux mondes au bout de leurs doigts, c'est un pouvoir que beaucoup d'hommes de mon temps recherchaient. Pour certains, c'était même le but ultime de leur vie. Ils étaient hantés par ce désir. »«
Mais pas toi, n'est-ce pas ?»
Chung Sin ne répondit pas. Les choses n'étaient plus aussi simples.
Et cet homme, j'ai du mal à imaginer quelqu'un d'aussi sombre, d'aussi dément, d'aussi monstrueux,
ajouta A.A., qui parlait de toute évidence de Wade.
Ce n'est pas le plus dangereux, rétorqua Chung Sin.
Elle avait raison. Au moins, Wade ne cachait pas ses intentions, si malveillantes soient-elles. Or, la faculté des hommes de son époque à pouvoir dissimuler leur émotion était difficilement imaginable pour A.A. et ceux de son temps. Qui sait ce que cachaient ces six hommes derrière leur masque de glace? Qui pouvait savoir si derrière eux n'était pas tapis une Yi Wenji ou un Chang Beiyei? Chung Sin touchait maintenant du doigt la fragilité de ce monde. C'était une sublime bulle de savon flottant au milieu de buissons d'épines. Au moindre contact, elle éclaterait. Une semaine plus tard, Chung Sin se rendit au siège des Nations Unies pour assister à la cérémonie de cession des deux planètes du système de DX-3906. À l'issue de la cérémonie, le président tournant du Conseil de défense planétaire exprima officiellement au nom des Nations Unies et de la flotte solaire son souhait de voir Chung Sin entrer dans la course pour la fonction de porte-épée. Il se justifia en disant que de trop nombreuses incertitudes pesaient sur les six autres candidats. L'élection de n'importe lequel d'entre eux était synonyme de danger et de menace pour une partie non négligeable de la population. Un imprévisible vent de panique risquait de souffler sur la société. Il fallait aussi prendre en compte un autre facteur de risque. Les six candidats se montraient tous soupçonneux et agressifs à l'égard du monde trisolarien. Si le porte-épée était choisi parmi eux, ce serait une victoire pour les factions bellicistes au sein des nations terrestres et des flottes spatiales. Ils pratiqueraient une politique dure et utiliseraient la dissuasion de la forêt sombre pour exercer un chantage permanent sur Trisolaris. Une telle attitude aurait pour conséquence de mettre un terme brutal au développement pacifique de plus en plus intense des échanges scientifiques et culturels entre les deux mondes et entraînerait de terribles répercussions. Mais elle, Chung-Sin, pouvait empêcher que tout cela n'arrive. Depuis que le temps des cités souterraines était révolu, le siège des Nations Unies avait été redéplacé à la surface. Tout ici paraissait familier à Chung-Sin. L'extérieur du bâtiment était sensiblement le même qu'il y a 3 siècles, et la sculpture sur la place devant l'édifice avait été parfaitement préservée. La pelouse elle-même avait eu le temps de repousser. Chung-Sin se rappela cette nuit agitée 270 ans plus tôt. La promulgation du programme collimateur, les coups de feu sur Luo-ji, la panique de la foule sous les faisceaux chancelants des projecteurs, ses longs cheveux soulevés par la turbulence des hélicoptères, la sirène hurlante et les gyrophares de l'ambulance qui s'éloignaient dans la nuit. Il lui semblait que c'était hier. Le dos face aux lumières de New York, les yeux de Wade scintillaient alors d'une lueur froide, tandis qu'il prononçait la phrase qui avait à jamais changé le destin de Chung-Sin. « Nous n'en verrons que le cerveau ». Sans cette affirmation, tout ce qui se passait aujourd'hui n'aurait rien eu à voir avec elle. Elle serait restée une femme ordinaire et se serait éteinte depuis déjà 2 siècles. Tout ce qui la concernait se serait évanoui sans trace en amont de la rivière du temps. Avec de la chance, la 10e génération de ses descendants serait aujourd'hui en train d'attendre la nomination du 2e porte-épée. Mais elle était encore en vie et faisait en cet instant face à une foule immense rassemblée sur la place. Son image holographique, pareille au portrait d'une candidate officielle, flottait au-dessus de la foule comme un nuage coloré. Une jeune mère avec un enfant dans les bras parvint à grimper jusqu'à elle et lui confia son enfant, qui ne devait avoir que quelques mois. Cette attendrissante créature lui offrit un sourire sucré. La petite boule de chair chaude qu'elle tenait dans les bras posa son visage tendre et humide sur le sien. Chung-Sin sentit son cœur fondre. Elle avait en cet instant l'impression de porter le monde entier, ce nouveau monde aussi attendrissant et fragile que le bébé blotti contre elle. « Regardez, c'est la Sainte Marie, c'est elle !» hurla la jeune mère à l'adresse de la foule. Puis elle se retourna vers Chung-Sin, les yeux en larmes et les mains jointes. « Belle et bienveillante Madone, protégez notre monde, ne laissez pas toute la beauté d'ici-bas être anéantie par ces barbares assoiffés de sang !» Sa tirade fut accueillie par un écho d'acclamations dans la foule. Le bébé dans les bras de Chung-Sin, apeuré, se mit à pleurer. Chung-Sin le serra fort contre sa poitrine. Une question revenait sans cesse. « Ai-je un autre choix ?» Elle connaissait maintenant la réponse. Non. Et ce pour 3 raisons. Premièrement, un individu que l'on proclame sauveur du monde est un condamné dont la tête est sous la guillotine. Il n'a aucune issue. C'était arrivé à Luo-ji et cela arrivait maintenant à Chung-Sin. Deuxièmement, la jeune mère et l'enfant doux et chaud dans ses bras lui avaient soudain fait comprendre la nature de ses émotions à l'égard de cette époque. L'instinct maternel. C'était pour elle un sentiment nouveau dont elle n'avait jamais fait l'expérience pendant l'ère commune. Dans son inconscient, les habitants de ce nouveau monde étaient tous ses enfants et elle ne pouvait supporter de les voir souffrir. Elle avait autrefois cru que c'était par sens de la responsabilité, mais c'était bien l'instinct d'une mère et, contrairement à la responsabilité, ce sentiment n'était pas guidé par la raison. Elle ne pouvait s'en affranchir. Il y avait enfin une réalité qui se dressait devant elle comme un mur infranchissable qui demeurerait toujours, même sans les 2 raisons précédemment évoquées. Ce mur, c'était Yun Tianming. Ce qui l'attendait, c'était un enfer, un gouffre sans fond, le même genre de gouffre dans lequel Yun Tianming n'avait pas hésité à plonger. Pour elle, Chung-Sin ne pouvait pas reculer, c'était son karma. L'enfance de Chung-Sin avait été ensoleillée par l'amour de sa mère, mais elle n'avait connu petite que l'amour maternel. Elle avait demandé à sa mère où se trouvait son père, mais à la différence de bien d'autres mères seules, Celle-ci lui avait répondu sur un ton apaisé qu'elle l'ignorait. Puis elle avait poussé un léger soupir, ajoutant qu'elle aussi aurait aimé le savoir. Chung-Sin lui avait alors demandé d'où elle venait. Sa mère avait répondu qu'elle l'avait trouvée. Ce n'était pas un mensonge. Chung-Sin était réellement une enfant trouvée. Sa mère ne s'était jamais mariée. Un soir, alors qu'elle avait rendez-vous avec son petit ami dans un parc public, elle avait découvert Chung-Sin, âgé de 3 mois, abandonné sur un banc. À côté d'elle, un biberon de lait, des langes, 1000 yuan et un bout de papier sur lequel était inscrite sa date de naissance. Sa mère et son amie avaient d'abord eu l'intention de confier l'enfant au commissariat le plus proche, qui l'aurait ensuite transféré au bureau de l'administration civile, puis celle qui aurait porté un autre nom que Chung-Sin aurait fait ses premiers pas dans un orphelinat. Mais sa mère avait pris la décision de n'apporter l'enfant à la police que le lendemain matin. Était-ce pour connaître le temps d'une nuit le sentiment d'être mère, ou pour une autre raison? Toujours est-il qu'au lever du soleil, elle ne pouvait plus abandonner ce petit être. Chaque fois que cette idée la traversait, son cœur se serrait douloureusement. Elle avait décidé de devenir la mère de l'enfant. Cette décision avait provoqué le départ de son petit ami. Durant la décennie suivante, sa mère avait fréquenté 4 ou 5 hommes, mais leur relation n'avait pas duré. Chaque fois en raison de cet enfant qu'elle avait recueilli. Chung-Sin avait appris plus tard que ces hommes ne s'étaient pas forcément opposés à ce que sa mère la garde, mais dès qu'ils montraient une once d'incompréhension ou d'agacement, elle les quittait. Elle refusait de voir sa fille connaître la moindre souffrance. Petite, Chung-Sin n'avait pas pour autant le sentiment de vivre dans une famille incomplète. Au contraire, elle était persuadée que c'était cela une famille, un petit monde composé d'une mère et de sa fille, un monde qui avait tout ce qu'il fallait de bonheur et d'amour. Elle se demandait même si la présence d'un père n'aurait pas été superflue. Mais en grandissant, Chung-Sin avait commencé à souffrir de l'absence d'amour paternel. Cette sensation, au début impalpable, s'était peu à peu intensifiée. C'était à ce moment-là que sa mère lui avait trouvé un père, un homme bon, aimant et responsable. Si celui-ci était tombé sous le charme de sa mère, c'était d'ailleurs en partie grâce à l'amour que celle-ci portait à sa fille. Le monde de Chung-Sin ne manquait plus de rien, et ses parents n'eurent aucun autre enfant. Chung-Sin était parti étudier à l'université, abandonnant pour la première fois son père et sa mère. Puis sa vie était devenue un cheval à qui l'on aurait lâché la bride. Elle galopait de plus en plus loin. Elle s'était éloignée d'eux, spatialement d'abord, puis temporellement. Elle allait partir dans le futur. Le souvenir déchirant de sa nuit d'adieu resterait à jamais gravé dans ses os. Elle avait raconté à ses parents qu'elle reviendrait les voir le lendemain, tout en sachant pertinemment qu'il n'en serait rien. Elle avait été incapable d'affronter cette séparation et n'avait eu d'autre choix que de partir en douce. Mais ils avaient paru percevoir quelque chose. Sa mère lui avait pris la main. « Sin-Sin, c'est notre amour à tous les trois qui nous fait avancer ensemble. » Cette nuit-là, elle était demeurée debout devant la fenêtre jusqu'au matin. Dans son esprit, tout, de la brise nocturne jusqu'au scintillement des étoiles, répétait les dernières paroles de sa mère. 3 siècles plus tard, l'occasion lui était enfin donnée d'agir par amour. « Je serai candidate à la fonction de porte-épée », murmura Chung-Sin à la mère de l'enfant.